est court. C'est la fin de ce bulletin.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous suivez Sporama, suivez OU Africa. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, on fait le point de l'actualité sportive à travers le monde. Élisée Mpati devant ce micro. On va parler ce soir de la Super Coupe d'Europe de football avec le sacre du Bayern de Munich. Les Allemands, au bout du suspense, ont dominé les Espagnols du FC Séville après prolongation. En Afrique, c'est la reprise le week-end prochain du championnat de première division en RDC. Et puis, la Sierra Leone introduit l'égalité de la rémunération pour les équipes nationales masculines et féminines de football. Désormais, les deux sélections recevront les mêmes primes de match. Et pour parler de tout ceci, on retrouve comme d'habitude nos consultants. Bonsoir Laval Dinkosuro.
Élisée, bonsoir et bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
Je rappelle que vous êtes avec moi dans ce studio. Direction Dakar au Sénégal pour retrouver Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amine Birouk est en direct de Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis du côté de Kinshasa, nous avons Valdo Simbo Nyamba Nyamba. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Bienvenue à tous. Le Bayern de Munich s'est adjugé la Super Coupe d'Europe 2020. Au bout du suspense, le club bavarois a dominé le FC Séville 2-1 après prolongation à Budapest en Hongrie. Le Bayern est véritablement irrésistible cette saison, Lawal.
Oui, on le voit bien, Élisée, parce que le Bayern a tout remporté sur son passage. Autant de matchs joués en UEFA Champions League, autant de victoires. Le Bayern a montré qu'il est le maître du jeu pour cette année de reprise après le Covid.
Autant de victoires sur une saison pour le club bavarois.
Oui, c'est un record. Le record détenu par le Real est tombé finalement. Et aujourd'hui, il est important de reconnaître que les Bavarois méritaient de revenir au devant de la scène européenne et méritaient donc ces différentes victoires. Et le plus heureux pour moi, ce serait donc Lewandowski qui y rêve depuis un moment et il a fini par s'accrocher. Et les plus jeunes sont également là, Kingsley Coman qui a permis au Bayern de remporter l'UEFA Champions League.
Par construction qui a fini par retrouver
le sommet. Et retrouver le sommet, et retrouver la rage de vaincre avec cette jeunesse impulsée par le nouvel entraîneur qui a pris l'équipe en cours de saison, mais qui a su faire l'osmose nécessaire pour aboutir à ce résultat. On dit chapeau l'entraîneur.
Amine Birouk, le FC Séville n'a pas démérité et le Marocain Youssef El Nesri aurait pu être le héros du match.
Le Bayern a souffert plus qu'il ne fallait face à une courageuse équipe de Séville, une formation andalouse qui a réussi même à prendre l'initiative et à mener au score. C'était la première fois depuis très longtemps qu'on a vu les Bavarois mener à la marque, mais on a remarqué cette force de caractère, cette organisation, cette capacité de l'équipe allemande à dominer le temps de jeu, à exploiter ses temps forts et à profiter des maladresses adverses, notamment celle de Youssef El Nesri, l'international marocain, qui aurait pu tuer tout suspense dans la rencontre à la 87e minute à la suite d'un face-à-face face à Manuel Neuer. Un Neuer décisif sur deux coups du joueur marocain, puisqu'à la 92e minute, en début de prolongation, il a également réussi à sortir un arrêt réflexe. Le Bayern a été efficace, le Bayern a été fidèle au rendez-vous. Il remporte sa deuxième Super Coupe d'Europe. Et le Bayern est évidemment aujourd'hui l'ogre du football européen par excellence. Il a gagné la Bundesliga, la Coupe, la Super Coupe, la Champions League et maintenant la Super Coupe d'Europe.
L'UEFA a d'ailleurs nominé 3 joueurs pour le titre de meilleur joueur de la saison 2019-2020 qui sera connu jeudi prochain. Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski et Manuel Neuer. Valdo, c'est un trio sans surprise.
Un trio qui ne souffre d'aucune contestation, Élisée, au vu de ce qu'a été leur prestation cette saison. Ils sont les premiers à mettre hors course le duo Messi Ronaldo, quoique l'Argentin arrive quand même en quatrième position. Manuel Neuer, Lewandowski ont tout gagné cette saison avec des prestations XXL qui les placent sur un nuage. Mais seulement, il n'y aura pas une place pour deux. Il faut donc les départager. Dans pareil cas, c'est souvent le joueur des champs qui prennent l'ascendant sur le gardien. Mais attention, Manuel Neuer sait bien se servir aussi de ses pieds que de ses mains en dernier rempart. Ça va certainement se jouer sur un petit détail. Élisée, vous l'aurez certainement compris que dans le sprint final, je place déjà hors course Kevin De Bruyne dans la présence sur le podium est déjà une grosse performance.
Amine, apparemment le Polonais fait office de favori au vu de ce qu'il a réalisé cette saison.
Visiblement, il n'y aura pas de contestation pour savoir qui succédera à Lionel Messi en tant que meilleur joueur de l'année. Il n'y a pas de doute sur la capacité de Robert Lewandowski, meilleur buteur de la Champions League la saison dernière avec 15 réalisations, meilleur joueur de la Bundesliga et puis l'élément clé de cette équipe du Bayern sur le plan offensif. Il a mené le club allemand sur tous les fronts et aujourd'hui, il va recueillir le fruit d'un travail de longue haleine. On l'avait remarqué en 2013 avec le Borussia Dortmund, il avait éclaté à la face du football européen. Depuis son transfert au Bayern, il n'a fait que confirmer année après année sa capacité à être un renard des surfaces. Il a élargi sa palette de jeu, il est capable de marquer des coups francs, de jouer un peu plus en retrait, de partir de loin. Et aujourd'hui, il est le favori numéro 1 pour le titre de meilleur joueur européen, bien devant Kevin De Bruyne et Manuel Neuer.
Amédine Sy, c'est la première fois depuis 10 ans que ni Cristiano Ronaldo ni Messi ne sont nommés.
Tout à fait, Élisée. C'est un événement pour moi, hein, parce que ces deux extraterrestres ont confisqué tous les titres, hein, individuels, que ce soit en Europe ou dans le monde. Mais il faut le comprendre, hein, parce que ces deux joueurs commencent à prendre l'âge non seulement, mais ils brillent jusqu'à présent, c'est vrai, mais ils ne sont plus comme ils étaient avant, parce que c'était des extraterrestres. Maintenant, il faut compter sur quelqu'un comme le gardien d'Hubert Neuer, qui est en train quand même de faire ce que Messi et Ronaldo faisaient au niveau du jeu. Lui, il est en train de le faire dans les cages. Il y a également De Bruyne qui brille, mais Lewandowski également qui est en train de battre tous les records. Élisée.
Lawal, pour le titre du meilleur entraîneur, on retrouve trois Allemands dans le trio final. Hansi Flick du Bayern de Munich, Julian Nagelsmann des Red Bull Leipzig et Jürgen Klopp de Liverpool.
Oui, Élisée, les trois entraîneurs ont réalisé une saison époustouflante, fantastique. Il faut le reconnaître, mais quand on regarde un peu les performances des trois, quand je prends Klopp, il a régné sur la première ligue anglaise durant toute la saison. Le Bayern également a régné sur la Bundesliga.
Non seulement sur
la Bundesliga, mais le Bayern a fait autant de matchs en UEFA Champions League, autant de victoires avec cette finale remportée face au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, le Bayern s'adjuge également la Supercoupe de l'UEFA. Et on regarde des différentes performances des uns et des autres. C'est vrai que Leipzig a fait une saison époustouflante. Il a pu aller jusqu'en demi-finale de la Champions League. C'est déjà bien pour lui, le plus jeune. Et il est en train de monter en expérience. On espère que ça va lui servir la saison prochaine. Mais quand on regarde, il y a un qui sort du lot. C'est Jan Flick du Bayern qui, à lui tout seul, a remporté déjà pas moins de 4 trophées. Si je dois faire un choix, je voterai pour l'entraîneur bavarois, tout simplement.
On attend jeudi
pour avoir le résultat.
Les sélections africaines vont faire leur retour sur les terrains entre le 5 et le 13 octobre prochain, après près d'une année d'absence à cause du coronavirus. Ces rencontres amicales serviront de grande préparation pour la suite des qualifications de la CAN 2021. Mais Amédine Sy, le contexte sanitaire rend toutefois difficile l'organisation de ces matchs amicaux, pourtant indispensables.
Vous avez parfaitement raison, Élisée. Le comeback des sélections africaines ne sera pas du tout facile quand même, il faut le dire, puisque ces matchs arrivent dans un contexte extrêmement difficile avec la situation sanitaire qui prévaut dans le monde, hein, car il y a eu la COVID-19, donc ce sera très très difficile pour organiser des matchs. Mais comme le dit l'adage, un problème quand il est bien posé, c'est à moitié résolu, Élisée. Les organisateurs de ces matchs n'ont qu'à prendre quand même leurs responsabilités et prendre les mesures nécessaires. En tout cas, pour le cas du Sénégal, qui doit quand même accueillir la Mauritanie le 13 octobre au stade Ladjor de Thiès. Les responsables sont en train quand même de communiquer sur cette rencontre. D'abord, le président de la fédération a fait savoir que ce match se jouera non seulement à huis clos, mais les mesures barrières seront respectées. Élisée.
Amine, le Maroc prépare deux matchs et Vaïd Ali Lodic annoncera demain mardi la liste des joueurs retenus avec probablement Mouni El Adadi.
Coach Vahid va certainement le convoquer, mais il manque de compétition en ce moment, puisque avec Séville, l'équipe vient à peine de reprendre. Il n'a pas été titulaire lors du match de Supercoupe d'Europe. Coach Vahid va certainement voir également de nouveaux visages évoluer en Europe, puisque une des singularités de la liste qu'il va devoir communiquer dans les prochains jours est qu'il n'y aura aucun joueur de la Botola marocaine, puisqu'il s'est engagé à en appeler aucun devant le président de la fédération, qui est en même temps le président de la commission des sélections nationales. Pour la simple et bonne raison, c'est que le championnat doit se conclure à la même période, le 11 octobre prochain. Et il y a quand même plusieurs équipes qui sont engagées dans la lutte pour le titre qui auraient certainement des joueurs sélectionnables. On risque de voir de nouveaux visages dans cette équipe marocaine, on risque d'avoir du sang neuf. Et on attend certainement avec beaucoup d'impatience la double confrontation avec le Sénégal et la RDC.
Lawal, la liste de Michel Dussuyer est aussi attendue pour ce mardi.
Oui, malheureusement, la liste est attendue, mais quel sera le contenu de cette liste quand on sait qu'au plan local, la fédération est restée toujours esclave des décisions du gouvernement. Dans quelles conditions va-t-on jouer ces matchs amicaux? Le sélectionneur va compter sur les expatriés.
Surtout que le Gabon a fait appel à tous ses joueurs, notamment Pierre-Emerick Aubameyang.
Et nous, on est là. On dort.
On aurait pu avoir la concurrence en attaque entre Rudy Jesse et Steve Mounier. Voilà, Rudy n'a pas de club. David Kiki aussi n'a pas de club. Ça reste un casse-tête énorme pour le technicien français.
Non, je ne dirais pas un casse-tête énorme. À l'impossible, il n'est tenu, il va faire avec ce qu'il a sous la main. C'est comme c'est des matchs amicaux, ils vont peut-être se préparer, ils vont prendre appui sur ces matchs-là pour se relancer. Et quand on observe bien, on a bien l'impression que les Béninois ne sont pas dans la dynamique de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. J'espère que Michel Dussuyer va trouver l'alchimie nécessaire pour continuer d'espérer faire rêver encore les Béninois comme il a fait en Égypte.
La double confrontation entre le Bénin et le Lesotho reste capitale. On revient à vous, à Medine. Au Sénégal, Aliou Cissé joue la carte de la prudence avant de publier la liste des Lions qui vont affronter le Maroc et la Mauritanie.
Tout à fait, Élisée, le coach des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, pour ne pas le nommer, va ratisser l'argent. Il va convoquer pour ces deux rencontres 27 jours, car on dit que gouverner, c'est prévoir. Avec la pandémie, on ne sait jamais. C'est pourquoi Aliou Cissé a décidé quand même de convoquer, d'élargir sa liste en convoquant 27 Lions. Et il va certainement, pour ces deux matchs, faire appel aux cadres qui ont joué quand même la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il fera appel également à des nouveaux, puisque depuis que les championnats ont repris, il y a des jeunes Sénégalais qui commencent à émerger, comme Niane Lavancan du FC Metz. Mais ce sera très très difficile, puisque l'équipe nationale du Sénégal n'a plus joué depuis très longtemps. Mais ces matchs servent à ça aussi, pour pouvoir voir la valeur réelle de tous les jours, avant quand même les choses sérieuses qui vont débuter au mois de novembre avec la suite des éliminatoires de la CAN Élysée.
Valdo, en RDC, Christian Sangui a déjà rendu la liste de 28 joueurs pour les explications contre le Burkina Faso et le Maroc, sans Cédric Bakambu et Jackson Muleka.
Deux absences bien justifiées, Élysée, pour Bakambu, les championnats chinois. C'est joué en mode confinement. Pas de déplacement si ce n'est resté dans sa zone de confinement. Jackson Muleka, lui, à peine arrivé en Belgique, a plus besoin de s'adapter et résoudre ses problèmes administratifs qu'il est venu jouer en amical avec la sélection congolaise. Mais ces absences-là ne sont pas les seules. Bolassie Magoma Mpoku, pour ne citer que ces quelques noms, ne font pas partie des 28 convoqués pour ces deux matchs amicaux. Le sélectionneur congolais a fait aussi appel à des jeunes dont certains vont inaugurer leur première sélection avec l'équipe première de la RDC. Question d'assurer de quelque manière qu'ils s'assoient. Les passages à témoins pour certains en préparant également la relève. Ces deux matchs amicaux vont certainement permettre au sélectionneur congolais de se faire une idée sur la sélection qu'il va devoir mettre en place pour la double confrontation contre l'Angola, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022.
En attendant, Valdo, c'est la reprise chez vous le week-end prochain du championnat national de première division. Et une fois encore, ça va se jouer entre le TP Mazembe et l'AS Vita Club.
Un peu comme en Espagne où ça se joue entre Real Madrid et Barcelone. Mais cette saison, il y a quand même des signaux qui montrent que les changements peuvent être des mises. Et si la saison dernière, Mazembe est resté dans ce qu'il a établi comme domination de ce championnat depuis des années, 20 clubs des MB n'ont pas eu la tâche facile parce que Manier Maignan et Bazano se sont invités et les ont soumis à une forte pression. Heureusement pour eux, la Covid-19 a tout arrêté. La grâce Covid ne sera pas certainement des mises cette saison où tout semble être pris très au sérieux par différents clubs. Les Simba Sangabalende qui a été sauvé de justesse de la relégation. Manier Maignan qui tient à rester dans la dynamique de la saison dernière pour avoir réussi à accrocher une place africaine. Il ne sera pas du tout surprenant que l'ordre d'arrivée connaisse un changement à l'issue de cette saison.
Amine Birouk, pendant ce temps, c'est le 108e derby de Casablanca qui marquait la 25e journée de la Bolota.
Et la montagne a accouché d'une très petite souris lors de ce derby casablancais. Très peu de temps de jeu effectif, très peu d'actions concrètes et tranchantes. Deux équipes excessivement prudentes. La peur au ventre, la peur de perdre étaient les leitmotifs de cette confrontation qui n'a arrangé aucune des deux équipes. Un Raja qui partait avec la faveur des pronostics, un Wydad qui s'est présenté quasiment en victime expiatoire. Et puis, une équipe qui a bénéficié de ce match nul, la Renaissance sportive de Berkane, qui revient à deux longueurs du leader et un point du dauphin, le Wydad de Casablanca, et qui va entrer de plein pied dans la lutte pour le titre. Le derby sans public avait déjà perdu sa saveur, puisque lors des dernières années, c'est le public qui faisait le spectacle. Si en plus de ça, sans pression du public, les joueurs n'arrivent pas à se libérer, les entraîneurs sont excessivement calculateurs. Le derby a aujourd'hui déçu tous ceux qui attendaient monts et merveilles de cette confrontation. Le titre au Maroc va se jouer dans les dernières journées et certains vont peut-être s'en mordre les doigts d'avoir laissé filer l'occasion de gagner le match.
Direction le Burkina Faso. Après un début tumultueux du championnat de première division avec 8 clubs qui avaient refusé d'y prendre part, les choses sont rentrées dans l'ordre. La Fédération Burkinabé de football et les protagonistes ont finalement accordé leur violon au cours d'une rencontre. Les détails avec Kader Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
La crise née lors de l'entame du championnat national de football de première division du Burkina Faso a connu son dénouement. L'on se rappelle que 8 clubs avaient décidé de boycotter la première journée du Faso Foot au motif que 4 points du règlement ne leur satisfaisaient pas. À la suite d'une rencontre entre la fédération et l'ensemble des représentants des 18 clubs du Faso Foot, des points d'accord ont été trouvés. Lazare Bansé, président de la Fédération Burkinabé de football.
La réunion s'est très bien passée dans une très bonne ambiance. Les clubs ont été très positifs dans leur démarche et ensemble nous avons examiné les 4 points et nous sommes tombés sur un accord.
Que ce soit la police d'assurance des clubs, la flexibilité sur le port des maillots de la fédération ou encore la promesse de 30 millions, les clubs repartent satisfaits. Aboubakar Sidiki Traoré, président de l'ASFB.
Sur les 4 points, moi je peux dire qu'on a été satisfait même sur les 4 points. Parce que par rapport au 4e point, la promesse, le président a toujours dit qu'il va avoir d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de la saison, ce qui est faisable.
Le colonel Yacouba Ouédraogo, président de Salitas FC, n'a Dieu que pour l'intérêt de ses joueurs.
Au-delà même de cette requête-là, nous voyons un peu l'intérêt des joueurs de Salitas parce que c'est des jeunes qui sont déjà prêts. J'irai rendre compte au niveau du comité exécutif et on pourra aviser.
Le week-end prochain aura lieu la 2e journée du Faso Foot. Les clubs qui ont décidé de boycotter la première perdent leur match sur tapis vert selon le règlement de la Ligue de football professionnel. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Lawal, plus de peur que de mal. On a fini par se mettre d'accord.
Oui, on devrait finir par se mettre d'accord. Et je constate que c'était une tempête dans un verre d'eau.
On a voulu bousculer un peu le nouveau président de la fédération.
Il a été bousculé, mais on aurait pu lui accorder le bénéfice du doute. On aurait pu lui accorder la période de, d'acclimatation. On ne lui a pas laissé le temps. Et aujourd'hui, s'il a réussi à faire baisser la tension, c'est déjà heureux. Et si les clubs ont pu revenir sur leurs décisions, ont pu accepter reprendre le championnat, c'est tout à fait à leur honneur également. Donc, on a évité de très peu la crise, mais on avait intérêt à ne pas en rajouter. Parce que, rappelez-vous, avant les élections, on craignait que ça se passe pas bien, ça s'est bien passé finalement, et aujourd'hui, on devrait se mettre ensemble pour aider le nouveau président à réussir sa mission.
La Sierra Leone introduit l'égalité de rémunération pour les équipes nationales masculines et féminines de football. Une grande étape dans la promotion du football féminin en Afrique. L'annonce a été faite conjointement par le gouvernement et la Fédération de football. Désormais, les deux sélections recevront les mêmes primes du match. Alors, Lawal, après le Brésil, c'est au tour de la Sierra Leone de prendre une telle décision. C'est une stratégie qui peut avoir un impact social important.
Oui, Élisée, la Sierra Leone, regardez ce petit pays qui se permet ce luxe-là. Ça veut dire qu'on veut faire du football féminin une sorte de publicité pour le pays. Parce que beaucoup de pays africains minimisent le foot féminin et n'y prennent pas assez d'importance.
Un signal fort à l'endroit de la Confédération africaine de football.
Tout à fait, tout à fait. Et on doit tirer leçon de ça. Toutes les équipes, toutes les nations doivent tirer leçon de ce petit pays parce que c'est pas un grand pays de foot, mais on se permet quand même de mettre les hommes et les femmes au même pied d'égalité.
Mais au Bénin, en nommant Adolphe Ogouillon, directeur technique national, la FBF aussi s'inscrit dans la promotion du foot féminin.
Bon, je ne pourrais pas le dire comme ça. Adolphe Ogouillon est beaucoup plus là, directeur technique national pour les hommes.
Mais
c'est vrai que...
C'est le cas de visite.
Oui, c'est vrai que par rapport au foot féminin, il a fait ses marques. Mais aujourd'hui, au regard de ce qu'on observe sur le terrain, on n'a pas d'équipe nationale féminine qui existe véritablement. On n'a pas de club féminin qui participe à des championnats régulièrement. Donc, on a beau avoir une carte de visite assez impressionnante dans le foot féminin, dans l'Hexagone notamment, mais pour l'heure, Adolphe Ogouillon ne pourra pas grand-chose pour le foot féminin, à moins qu'on envisage des réformes profondes.
Alors, Amine, le Maroc qui vient de professionnaliser son championnat féminin ne devrait-il pas faire comme la Sierra Leone?
Au Maroc, il n'y a pas de parité au niveau des salaires au sens strict du terme, puisque les prix qui sont actuellement au niveau masculin sont hors de portée, avec des primes de signature et de rendement qui sont suffisamment conséquentes. Et les associations sportives qui forment le football féminin au Maroc n'ont pas le budget nécessaire. D'ailleurs, ce qui est certain, c'est que le président de la fédération a fixé un salaire minimal au-delà des moyens de ces entités. C'est la fédération qui va se charger de payer les joueuses, les entraîneurs des équipes premières, les préparateurs physiques, les préparateurs des gardiens de but. Et il va falloir aller chercher les fonds nécessaires pour pouvoir tenir l'engagement concernant les équipes de jeunes chez les filles, les U17, les U20 et les U15. Et cela est une autre paire de manches pour le football marocain. Pour l'instant, le football féminin n'en est qu'à ses premiers pas, qu'à ses balbutiements. Et pour le moment, la Sierra Leone a une très grande marge par rapport au football féminin au Maroc.
Valdo, une annonce qui coïncide avec la candidature de l'Afrique du Sud à l'organisation de la première Ligue des champions féminines.
Sacrée coïncidence, Élisée, s'il faut rester d'abord sur cette candidature de l'Afrique du Sud à l'organisation de la Ligue des champions de la CAF féminine, je crois que l'Afrique du Sud n'a plus rien à démontrer en termes d'infrastructure et d'organisation. Ils ont tout pour une nouvelle fois faire vibrer les continents africains. Parlons de la Sierra Leone et l'option levée de mettre à égalité la rémunération des équipes nationales féminines et masculines. Élisée, disons-le que c'est une véritable révalorisation de la pratique du football par les femmes, une égalité qui va aussi stigmatiser l'exigence en termes de résultats, ce qui, d'une manière ou d'une autre, va avoir une certaine influence sur la compétitivité dans cette compétition et aussi redonner un peu plus de la valeur à la CAN féminine. Bref, je pense que la politique de la Fédération internationale de football association sur le football féminin est petit à petit en train d'avancer, du moins pour les pays et qui l'apprennent du bon côté.
Ahmedine Sy, cette organisation constituera une motivation supplémentaire pour le championnat féminin sud-africain lancé seulement l'année dernière.
Élisée, je salue l'initiative car le fait d'introduire l'égalité de rémunération pour les équipes nationales masculines et féminines est une très bonne chose. D'ailleurs, le football féminin en Afrique commence quand même à se développer petit à petit. Cette décision peut être une source de motivation supplémentaire pour toutes les sélections africaines, mais aussi si on voit ce qui se passe en Maroc avec la professionnalisation du foot féminin, mais aussi l'organisation de la première Ligue des champions féminines, et je pense aussi que la candidature de l'Afrique du Sud est une bonne chose. Élisée.
Merci à Medine Sis. Programme, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Place à une nouvelle édition du journal. Au revoir.